Sébastien, nous sommes là dans une petite rue de Cuba, aux côtés d'une poignée de manifestants.
Oui, ils sont à peine une trentaine à entonner des slogans pour la libération de prisonniers politiques. C'était ce lundi 15 novembre. C'est cette date qu'avaient choisi des activistes pour descendre dans la rue afin d'entretenir l'embryon de mouvement populaire né au mois de juillet dernier où des milliers de Cubains avaient manifesté pour réclamer plus de liberté, une première historique. Sauf que cette fois, les autorités cubaines avaient tout anticipé. Interdiction de manifester, déploiement massif de la police et arrestation arbitraire. Résultat, le 15 novembre a été un échec. Pas de grande manifestation, juste quelques images de rassemblements isolés postés sur Facebook. Les raisons de cette opération ratée, comme l'a décrite avec délectation le ministre cubain des Affaires étrangères, c'est avant tout la stratégie répressive du pouvoir. Bien sûr, une centaine de dirigeants de la dissidence emprisonnés, assignés à résidence, une centaine d'activistes bloqués chez eux, insultés sous leurs fenêtres par des militants pro-régime. Toutefois, au-delà de cette réponse attendue du gouvernement cubain, certains dissidents admettent aussi un manque d'organisation. On entend là l'un des leaders de la dissidence modérée, c'était il y a 3 ans, Manuel Cuesta Morrois, espérait des changements après la mort de Castro. 3 ans après, il dit à nos confrères de l'AFP que l'appel de lundi a pâti d'une certaine improvisation. Il aurait fallu plus de planification, dit-il. Il faut dire que la culture de la manifestation d'opposition n'a que 4 mois dans le pays. L'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux peut faire espérer de nouveaux mouvements. L'un des groupes Facebook à l'origine de ce mouvement, justement, promet de nouvelles actions et demande aux Cubains de s'habiller en blanc, de porter des roses blanches et de participer à un concert de casseroles chaque soir pendant 10 jours. Encore faudra-t-il s'affranchir de la peur. Les peines encourues peuvent aller jusqu'à 30 ans de prison.
Le Japon vient d'exposer une réplique étonnante d'une fresque de Bamiyan.
Bamiyan en Afghanistan, un site rendu tristement célèbre en 2001. On s'en souvient, lorsque les talibans arrivent au pouvoir, ils dynamitent là-bas 2 Bouddhas géants et provoquent un tollé international, un crime culturel qui emporte aussi avec lui un autre trésor archéologique moins connu, une fresque murale bouddhiste datant du 7e siècle. Et c'est cette peinture rupestre totalement détruite que des archéologues japonais ont décidé de faire revivre. Après 3 ans de travail, une équipe de chercheurs a réussi à reproduire à l'identique cette fresque longue de 6 mètres et haute de 3 mètres. Une copie à l'identique sur le principe de la grotte de Lascaux grâce à d'anciennes photos prises avant la destruction du site. Un super clone en quelque sorte que l'on doit à l'Université des Arts de Tokyo. Cet historien japonais spécialiste de la culture afghane nous explique qu'avec les techniques actuelles de reconstitution, toute destruction est vide de sens, inutile. Elle ne sert à rien. Grâce à des photos extrêmement proches de la réalité, nous pouvons, dit-il, recréer les œuvres presque à l'infini. Et c'est ça notre message aux talibans. La fresque a été exposée il y a 1 mois au musée de Tokyo, au moment où les talibans justement se réinstallaient à Kaboul, faisant craindre de nouvelles destructions. Mais depuis leur prise du pouvoir, les talibans semblent avoir changé de regard sur le patrimoine archéologique. Pour le moment, en tout cas, des talibans montent désormais la garde devant le site de Bamiyan et un centre culturel, soutenu par l'UNESCO, devrait bientôt y voir le jour.
Allez, direction l'Iran, Sébastien, pour terminer, où de très rares femmes ont choisi le heavy metal pour s'émanciper.
Ouais, c'est le sujet d'un court-métrage iranien qui sort ces jours-ci sur Internet et qui met en scène une jeune chanteuse iranienne qui n'a rien à envier aux meilleurs représentants de ce style de musique. Voilà, il s'agit là d'une fiction et d'une musique composée pour l'occasion. C'est bien une femme que l'on entend chanter derrière nous. Mais le phénomène, bien qu'extrêmement minoritaire, effectivement, existe bel et bien. Des concerts de heavy metal underground à Téhéran avec des femmes qui montent sur scène et qui chantent. Elles prennent tous les risques. La musique occidentale là-bas est officiellement interdite en Iran. Les femmes n'ont pas non plus le droit de chanter en solo avec des musiciens masculins. Évidemment, elles sont rares, ces femmes, celles qui osent franchir le pas. Et le plus souvent, si elles n'entendent pas renoncer à leur passion pour le heavy metal, elles n'ont pas d'autre choix que de quitter leur pays.
Merci beaucoup, Sébastien Legénie.